L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 10 novembre. Bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Bonjour Claire, tu te trouves dans nos studios à Laval, comme depuis la semaine dernière. Comment ça va?
Ben, ça va toujours bien. Bonjour tout le monde. Il fait encore un peu frais et pas très très beau ce matin, mais ça va.
Notre Evelyne Delia de l'autre radio. Merci Claire, on vous retrouvera un petit peu plus tard. On te retrouvera d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui, donc, on va parler du pays de Cran qui manque de talents. De nombreuses entreprises recrutent et ont du mal à trouver du personnel. Alors la communauté de communes lance sa marque employeur. On verra ce que ça recouvre. Jour de manifestation des enseignants ce mardi avec un appel à la grève sanitaire. Nous avons demandé à deux responsables d'établissements, à Évron et Château-Gontier, comment s'était passée pour eux la rentrée. Et puis un point sur les associations. En ces temps compliqués de confinement, des petits conseils pour vos bénévoles et quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser.
Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Les enseignants mayennais en grève ce matin à Laval.
À l'appel de 5 syndicats, ils étaient une centaine à se réunir place du 11 novembre vers 10h. Tous dénoncent un protocole sanitaire qui ne protège ni les élèves ni les professeurs. Parmi leurs revendications, la diminution immédiate des effectifs dans les classes, la création de postes de remplaçants et la fourniture d'équipements de protection de qualité professionnelle.
Enquête pour violence dans un centre éducatif renforcé en Mayenne.
Deux éducateurs de la structure Roger Hiver, située à Soulgé-sur-Ouette, sont soupçonnés de violences sur mineurs commises entre 2015 et 2019. L'ancien directeur du centre éducatif renforcé est lui aussi visé. D'anciens salariés parlent de coups de genoux, de coups de poing, mais aussi de violences psychologiques. Pour l'association Inalta, qui gère la structure, si ces faits sont avérés, ils sont tout à fait inadmissibles et en parfaite contradiction avec les valeurs de l'association. L'enquête se poursuit.
Un cap franchi dans l'épidémie de Covid.
Il y a plus de Mayennais hospitalisés actuellement que pendant la première vague en mars. Selon Covid Tracker, qui permet de suivre l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France, 103 personnes sont actuellement hospitalisées, contre un peu moins d'une centaine au plus fort de la crise au printemps dernier. Le chef de la réanimation à Laval, Hussein Yassine, a lancé un appel pour que des volontaires rejoignent son service.
Des transports gratuits pour les soignants.
Les trains TER et autocars régionaux sont désormais accessibles gratuitement donc pour les soignants. Une décision prise par la région pour témoigner la gratitude et le soutien aux soignants. En cas de contrôle, il suffit de présenter un justificatif de déplacement professionnel, précisant que le voyageur est personnel de santé ou médico-social et bien sûr qu'il est sur son trajet de travail.
15 tonnes de pommes sur la route à Villers-Charlemagne.
L'accident est impressionnant ce matin, mais il n'a pas fait de victimes. Un camion s'est renversé sur la départementale 4, route de Housset, vers 8h. Le conducteur est sain et sauf et aucune voiture n'a été touchée. Mais une déviation est toujours mise en place via Château-Gontier, puis par Quelaine-Saint-Gaud.
Le skipper Fabrice Amédéo, toujours à quai.
Il a pourtant bien pris le départ du Vendée Globe ce dimanche, mais a dû faire demi-tour pour réparer une petite fissure dans le mât au niveau de la sortie de drisse. Son équipe technique travaille encore sur les réparations. Toujours bloqué à Port-Olona, au Sable d'Olonne, le navigateur espère partir ce mardi au début de soirée au plus tôt. Quant à Maxime Sorel, sur son bateau Viennby La Mayenne, il occupait la 5e place au dernier pointage à midi.
Mais Marie, comment attirer de nouveaux talents?
C'est la question que se posent plusieurs entreprises du pays de Cran qui sont souvent en manque de main-d'œuvre. Et pour pallier ce problème, la communauté de communes du pays de Cran vient de créer la marque employeur Travailler en pays de Cran, avec un guide d'accueil mais surtout une plateforme en ligne pour retrouver toutes les offres du territoire. Le but est d'attirer de nouveaux profils avec par l'emploi bien sûr, mais aussi par la qualité de vie présentée. Explication avec Gaëtan Chadelot, vice-président de la communauté de communes en charge de l'attractivité.
On a commencé avec des fiches qui avaient été données à toutes les entreprises. Et là, on déploie l'ensemble des choses sur une plateforme, un site internet où les entreprises peuvent déposer des candidatures qui vont être ensuite envoyées à une vingtaine de plateformes d'emploi. On a fabriqué cet outil parce que toutes les entreprises ne sont pas calibrées pour avoir un service de ressources humaines. Donc il fallait d'abord simplifier la chose. Quand généralement on publie une annonce, on fait un copier, un coller pour la mettre sur une autre plateforme. Là, l'idée, c'était de tout avoir sur un seul outil. Comme nous avons un mix d'entreprises important entre les services, l'industrie, l'agroalimentaire, il y a forcément aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises qui sont en recherche d'emploi. L'aspect travail aujourd'hui, il représente une vingtaine de pourcents sur le projet de vie d'une famille. Donc quand on vient sur notre territoire, on a besoin de savoir comment on est accueilli autour du tourisme, comment on est accueilli autour de la culture, de la question de santé qui est très très forte. Et ce sont tous ces atouts-là qui permettent justement aux demandeurs d'emploi de se déplacer. On n'a pas du tout idée du territoire. Quand on vient ici, quand on voit une troisième maison de santé qui s'installe, ça, savoir que quand on vient travailler ici, on va être bien soigné, c'est un atout très très fort pour les familles. Bien évidemment, il y a des infrastructures routières qui sont là, qui sont importantes, mais ça a été aussi le très haut débit. Hein. Aujourd'hui, savoir que quand on vient d'une commune de notre territoire, on va bénéficier du très très haut débit, c'est un diagnostic qui est extrêmement important pour les familles.
Les offres d'emploi sont disponibles sur www.travaillerenpaysdecran.fr. Chaque entreprise bénéficie au moins d'une offre gratuite, valable un mois sur le site. Nous sommes 8 jours après une rentrée des classes très particulière avec l'épidémie de coronavirus, mais aussi l'hommage à l'enseignant tué mi-octobre Samuel Paty. Quelle ambiance ici en Mayenne ? Réponse dans 2 établissements après la pause musicale. On écoute Guts avec Come Alive.
Bring me up, down, bring me up, down. Bring me up, down, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Bring me up, down, won't you bring me up?
Let me tell you my story.
Bring me up, down, won't you bring me up? Bring them all around so they see me work. Leaving good sounds, hear the good sounds. Making so my pride never leave the ground. I'll be on my way, I'll be on my way. Got my hero on, trying to save the day. Leaving for the king, living for the king. Hope to see the day that the kingdom reigns. I know you can see the light that shines through these rays. I'm spreading my peace. I hope you take this from me. Knowing that the wise them will understand. We can go a long way. Everybody home, come along, say. We are what we are, we are what he made. Moving so we get to a brighter day. I know you can see the light that shines through these rays. I'm spreading my peace. I hope you take this from me.
Don't you come.
All around.
Vous êtes bien sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. On en parlait en début d'émission dans le Flash, les principaux syndicats d'enseignants appellent ce mardi à la grève sanitaire pour protester contre un protocole sanitaire justement qu'ils jugent très insuffisant. Il mettrait en danger élèves et personnel selon eux. Alors une question, comment s'est passée la rentrée dans les collèges et lycées du département ? Impossible d'être exhaustif bien sûr, mais illustration avec deux exemples. On commence avec le collège Paul-Émile Victor à Château-Gontier et son principal Benoît Rigouin. Selon lui, pas de problème majeur, il a juste fallu s'adapter.
Pour le collège Paul-Émile Victor, nous avons la chance, d'avoir un collège qui est parfaitement dimensionné. C'est-à-dire que c'est un collège qui est à même d'accueillir un peu plus de 500 élèves. On est tout juste 500 élèves, donc on a pu accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. On a un self qui normalement fait 150 places. On l'a réduit à 100 places pour être sûr que les élèves aient bien un mètre de distanciation physique. Et puis chaque classe a une salle qui lui est attitrée. Les seuls changements de salle se font pour les salles de sciences et les salles d'art. Donc en fait, par rapport à la situation du printemps, on a juste autorisé les élèves à changer de salle de classe pour aller en arts plastiques, en éducation musicale et en sciences. On a suffisamment de salles pour pouvoir se permettre qu'en dehors de ces cours-là, chaque classe a une salle attitrée, ce qui limite très fortement le brassage. Maintenant, les salles sont ventilées en permanence, les salles sont suffisamment grandes. On avait mis au printemps, on avait rajouté des tables pour être sûr de garder une certaine distance physique entre les élèves. Tout ce dispositif du printemps, on l'avait laissé, donc on n'a pas eu à recommencer. Et puis les élèves ont de bonnes habitudes, ils sont très respectueux notamment du port du masque. Ils ont les mains qui sont désinfectées à chaque entrée de salle de classe. Voilà, pour le moment, tout se passe bien. Là, il se trouve qu'on a juste une période de travaux qui limite l'accès au lavabo, ce qui fait qu'on a mis en place désormais, avec des pulvérisateurs, la désinfection au gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque salle de classe. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est le fait effectivement de garder la distance d'un mètre sur la cour de récréation. Par contre, sur le port du masque, sur le lavage des mains, là, il n'y a vraiment aucun souci, ils sont vraiment très 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 bien.
Et alors, comment ça se passe le midi à la cantine ? Les élèves sont les uns à côté des autres ?
Non, les élèves ne mangent jamais en face à face. Ils mangent en diagonale et la diagonale fait au minimum un mètre. C'est pour ça qu'on est passé de 150 places à seulement 100 places. On a sollicité les familles qui pouvaient passer leur enfant, de demi-pensionnaire à externe. Donc, on a quelques familles qui ont pu faire cela. Donc, un petit peu moins d'élèves à venir. On a pu garder, je vous dis, une centaine de places, hein, ce qui est beaucoup. Et à partir de là, pour le moment, ça fonctionne. Dans l'horaire imparti, on n'a pas eu à décaler la fin des cours, notamment du matin. Hein, on a la totalité de l'emploi du temps classique. Une fois encore, j'insiste, c'est parce que les bâtiments le permettent. Il y a un grand self par rapport au nombre d'élèves. Le self est vraiment très grand. C'est ce qui nous a permis de maintenir ce fonctionnement-là. Sinon, comme les autres collègues, nous aurions été obligés effectivement de faire finir les classes plus tôt pour avoir la pause méridienne la plus longue possible pour que tous les élèves puissent manger.
Autre moment où les probabilités de contagion sont les plus grandes, c'est pendant les cours de PS, les cours de sport. Comment ça se passe ici au collège ?
Alors, il y a un protocole sanitaire à respecter concernant les sports de contact et ainsi de suite. Donc ça, c'est respecté par les professeurs de PS. C'est quelque chose qui se fait en lien aussi avec la communauté de communes qui met à disposition les installations. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation, notamment par rapport à l'accès aux vestiaires. Donc tout ça, ça a pu être résolu. Et puis sur la pratique des activités sportives, là, le ministère nous a donné des recommandations quant aux sports qui pouvaient se faire et ceux qui ne pouvaient pas se faire. Donc les professeurs, bien évidemment, appliquent ce protocole. En dehors des sports de contact, on a la chance d'avoir là aussi beaucoup d'installations sportives à notre disposition. Donc les professeurs peuvent faire en grande partie presque tout ce qu'il est possible de faire. Donc pas trop d'inquiétude là-dessus. Malgré tout, oui, on sent bien que l'année va être compliquée sur la pratique sportive et que cette pratique sportive ne doit surtout pas être délaissée, puisqu'on sait qu'à l'issue du premier confinement, on a quand même pas mal d'élèves qui n'avaient vraiment pas fait de pratique sportive sur ce temps-là. Et donc, nous, il faut absolument que l'on insiste auprès des élèves sur une pratique physique régulière. Il en va de leur santé, tout simplement.
C'est aussi pour ça que vous êtes satisfait, j'imagine, du retour en cours, pour le sport, bien sûr, mais aussi pour toutes les autres matières.
Complètement. Pour les obliger sur les pratiques sportives, mais également, on sait très bien que les élèves qui sont livrés à eux-mêmes, si jamais on devait repasser sur de l'enseignement distanciel, ça ne fait qu'accroître les inégalités sociales. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc, les collègues de lycée ont été autorisés à passer sur un temps partagé entre présentiel et distanciel. Le ministère n'a pas encore proposé ça aux établissements scolaires, mais on sait que, enfin aux collèges, mais on sait que pour les collèges, si possible, on fera tout pour ne pas avoir recours à ce mode de fonctionnement qui pénalise beaucoup trop les élèves. Les élèves qui n'avaient pas les conditions matérielles, déjà, tout simplement, hein, pour pouvoir suivre les cours en distanciel. Les élèves où il y avait deux ou trois enfants de la même fratrie, où tous les trois avaient besoin du matériel, plus éventuellement les parents à travailler à distance. Là, on se retrouve avec un taux d'occupation du matériel informatique qui est incompatible avec un suivi des cours. Et puis après, vous avez les élèves qui sont en zone blanche. Et puis après, il y a les compétences de chacun et de chacune. Hein. Tout le monde n'a pas des parents informaticiens pour les aider sur l'utilisation des différents logiciels. Donc non, le distanciel, ce sera vraiment en tout dernier recours. On ne le souhaite absolument pas. La priorité, ça reste la santé des élèves. À partir du moment où la configuration des bâtiments ne permet pas d'accueillir 100% des élèves sur la totalité du temps scolaire dans de bonnes conditions sanitaires, il est évident qu'il faut passer effectivement à une partie en présentiel, une partie en distanciel. Ça, c'est évident. La priorité reste la santé des élèves. Après, il faut trouver le juste équilibre pour ne pas avoir de décrochage scolaire pour ces élèves. Et là, ça passe aussi effectivement par une dotation matérielle que toutes les familles n'ont pas, bien évidemment. Dans nos jeunes familles actuellement, nombre d'entre elles ont une connexion Internet qui se limite à un téléphone portable ou à une tablette. Et ce ne sont pas des outils suffisants quand on veut faire une utilisation pédagogique à distance. Mais on ne va pas imposer aux familles d'avoir un matériel personnel performant. C'est pas du tout prévu. Il faut trouver un équilibre entre le fait d'avoir tous les élèves présents et un risque sanitaire, ou bien des élèves présents la moitié du temps et là un risque de décrochage pédagogique. Donc c'est vraiment à charge de l'établissement de trouver les meilleures solutions. C'est un fonctionnement que l'on n'a pas eu l'année dernière, et je crois que les établissements, le ministre a donné suffisamment de largesse pour que chaque établissement puisse travailler à sa convenance et surtout puisse s'adapter au fur et à mesure de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien. On a quelques élèves qui sont qu'à contact, qui donc restent à domicile le temps d'avoir des résultats. Donc là, ils travaillent effectivement avec l'espace numérique de travail, mais ça, ils en ont l'habitude. Hein, dans le collège, ça fait pas mal d'années que les enseignants effectivement mettent en ligne les cours, les exercices, les explications. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Donc.
Et comment vous voyez aujourd'hui la suite de l'année ?
Alors en début d'année, on avait dit qu'on essaierait de faire en sorte que l'année 2020-2021 ne soit pas une année blanche pour les élèves, notamment en termes de sorties scolaires, de voyages, d'intervenants extérieurs à venir dans l'établissement pour les rencontrer. Bon, malheureusement, on ne maîtrise absolument pas cette pandémie, et aujourd'hui, nombre d'activités extrascolaires ont d'ores et déjà été supprimées. Il y a des activités ici qui sont repassées en distanciel, notamment ça va être les conseils de classe, les conseils d'administration. Tout ça, ça va se faire bien évidemment en visioconférence, on n'a pas le choix. À partir du moment où il s'agit d'un intervenant extérieur qui vient voir une classe, l'intervenant extérieur respecte les gestes barrières comme n'importe quel adulte de l'établissement, et là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, on avait souvent des intervenants extérieurs qui venaient et on avait un brassage de classe. On réunissait deux ou trois classes pour l'intervention. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible désormais. Je reste très confiant à partir du moment où on restera en présentiel. Ce sera peut-être un peu moins vivant que les autres années, parce qu'effectivement, on n'ira pas, par exemple, au mémorial de l'esclavage à Nantes, ou on n'ira pas visiter Jublin, ou des choses comme ça. Ça, c'est sûr que ce sera peut-être un peu moins vivant que les autres années. Par contre, tant qu'on reste en présentiel, les élèves seront préparés pour leur poursuite de scolarité. Et on souhaite qu'ils le soient le plus possible, parce qu'on a quand même quelques rattrapages à faire par rapport à ce que l'on a eu au printemps.
Même envie du côté d'André Herbulot à Évron. C'est le principal du collège Paul Langevin, mais surtout le proviseur du lycée général et professionnel Raoul Vatpied. L'ensemble scolaire regroupe 950 élèves et 200 adultes. On va s'intéresser ici, surtout d'ailleurs, à la situation des lycéens.
Alors le protocole sanitaire du 2 novembre, il était déjà écrit dans celui du mois de mars, dans la configuration niveau 2, puisqu'au mois de mars, on était dans la configuration niveau 1. Et donc, on est sur des points, je dirais, de vigilance. Il n'y a pas de points nouveaux particulièrement, mais des points peut-être à renforcer, à accentuer. Je pense notamment à l'aération des classes. C'est quelque chose où les scientifiques ont souhaité donner au ministère un argument supplémentaire en disant qu'une aération le matin par très tôt avant que les élèves arrivent ne suffisait pas. Donc, c'est un point, par exemple. Un deuxième point étant sur peut-être la distanciation ou l'éviter le brassage d'élèves qui ne sont pas dans les mêmes classes. Donc, forcément, ça induit des complexités. Et le ministre a souhaité que les classes, dans la mesure du possible, puissent être que les élèves ne bougent pas et que ce soit les enseignants qui bougent. Et donc, on a refait des emplois du temps pour que la plupart du temps ou le maximum d'heures dans la semaine, ils puissent rester dans une même salle. Donc, ça sollicite les équipes de direction pour refaire les emplois du temps et éviter qu'il y ait trop de cheminement dans des couloirs à chaque heure de cours. Donc, rétablissement des sens de circulation, c'est-à-dire on entre par un escalier, on redescend par l'autre, on n'échange pas, on ne fait pas de demi-tour dans les couloirs. Ça, ce sont des points qui pouvaient exister dans certains établissements et qui ont été renforcés. La problématique essentielle, elle est la restauration scolaire, puisque lorsqu'on a des situations de Covid positives, l'ARS nous demande de chercher les moments où un jeune a pu être en contact au moins 15 minutes sans masque avec un adulte ou un autre élève. Il y a deux situations qui sont le PS et la restauration scolaire, voire peut-être internat. Et donc, la restauration scolaire, c'était un vrai problème. Là où on a plus de 700 repas par midi, il faut bien faire manger nos jeunes. On ne va pas les faire manger à 10h et à 14h30. Donc, on a mis en place distanciation dès lundi matin, c'est-à-dire que chaque classe est étiquetée de couleurs différentes. On a précisé les horaires exacts pour chaque élève à laquelle ils vont passer jour après jour pour éviter des attroupements devant des restaurations scolaires et pour avoir un flux continu qui nous permette d'avoir des élèves qui ne vont manger avec personne en face, personne à gauche et à droite, c'est-à-dire en quinconce, et donc permettre d'avoir au moins ce mètre de distance, ce qui n'est pas forcément facile et faisable dans chaque établissement. Ça dépend de la structure, la taille des salles, etc. etc. Après, il y a des problématiques qui sont, par exemple, l'EPS, donc
le protocole sanitaire. Comment ça se passe pour les cours de sport ?
Pour les cours de PS, il y a eu un protocole sanitaire spécifique, un avenant, où c'est assez drastique, notamment sur des activités où on doit privilégier 2 mètres de distance entre chaque élève. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un certain nombre d'activités EPS qui ne peuvent pas se faire. Et suivant les municipalités, on a accès ou on n'a pas accès aux salles de sport. Sur Évron, la municipalité a accepté que l'ensemble des installations municipales extérieures et intérieures puissent être utilisées par les scolaires, ce qui est un plus énorme, vestiaires compris. Mais l'utilisation du protocole fait que vous prenez, si vous avez une activité tennis de table dans une toute petite salle, il est hors de question que vous puissiez emmener 36 élèves. Donc, on a réuni, par exemple, les enseignants de PS et on a accepté qu'ils nous disent, en fonction de la salle, la taille, en fonction de l'activité, on dédouble les classes ou non pour que les jeunes aient une pratique de PS. Il faut savoir que les jeunes n'ont plus de pratique EPS dans les clubs, qu'ils sont fermés. Et donc, il est essentiel que l'école puisse permettre une continuité d'activité, je dirais, physique, qui est absolument indispensable en cette période un petit peu compliquée. Faut savoir qu'un jeune, il a son masque en prenant le bus à 7h du matin, il l'a jusqu'à 19h ou 18h quand il rentre chez lui, et qu'il n'a pas, comme nous, adultes, peut-être possibilité d'aller tout seul un peu à l'extérieur, l'enlever 5 minutes, et que eux, les jeunes, c'est très long.
Parce que justement, vous parliez de dédoublement de classe pour certains cours d'EPS. C'est une solution qui a été proposée par certains syndicats, même pour les cours, de manière générale. Est-ce que selon vous, ce serait envisageable ou pas ?
Pour le moment, moi, j'ai des classes qui sont à 35 en lycée général, mais je pense qu'ils sont actuellement positionnés dans des salles qui sont les plus grandes. C'est un challenge de dire l'école fonctionne dans cette période compliquée. Personne ne sait si demain ou dans 15 jours, nous n'aurons pas des modifications de fonctionnement. Personne ne le sait. Donc, l'école est vitale. On les accueille et on a surtout l'envie de montrer aussi aux familles, parce que derrière, ce sont des enfants de parents, de montrer aux parents que nous faisons le maximum pour assurer, je dirais, une sécurité sanitaire de leurs jeunes à l'intérieur de l'enceinte, évidemment avec les gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque permanent, le gel à l'entrée de chaque salle de cours ou de chaque salle, qu'il soit des professeurs de CDI, les lavages des mains, savon et eau avant de manger pour qu'on n'ait pas que du gel sur les mains toute la journée. Voilà, c'est un ensemble de choses, mais qui était déjà en place avant septembre, qui mérite que quelque part une vigilance accrue soit effectuée par l'ensemble des personnes présentes. Les jeunes ont pris conscience là depuis quelques jours ou une semaine ou deux avec le mot confinement qui est revenu, que quelque part la situation était grave. Là où peut-être mi-septembre, ils disaient « bon, il faut mettre le masque, ok, mais c'est plutôt les personnes plus âgées qui sont fragiles et nous, jeunes, on n'est pas impactés ». Et là, je pense qu'il y a maintenant une prise en compte que quelque part, on est sur une situation sérieuse.
Et justement, vous le disiez, la situation sanitaire, elle s'est encore aggravée là. Pour autant, pour vous, c'est toujours important de maintenir les lycées ouverts et les établissements scolaires de manière générale ?
Personne ne sait si dans 15 jours, le lycée X de telle ville en France n'aura pas un nombre important de personnes positives et qu'il faudra peut-être fermer une classe ou fermer un établissement. Mais je ne pense pas que ça soit généralisable à l'ensemble d'un territoire. On n'est pas pareil à Évron qu'en plein centre-ville de Rennes ou qu'en petite couronne de Paris. Donc, chaque territoire va évoluer sur sa situation sanitaire et Monsieur le recteur, représentant du ministre pour l'Académie de Nantes, prendra les décisions s'il doit être amené, à moins que sur l'ensemble du territoire, à un certain moment, la situation soit assez gravissime pour que Monsieur le ministre décide la fermeture des lycées et le basculement en cours en distanciel, comme on a fait demi-mars à fin mai. S'il faut, parce que la situation sanitaire ne permet pas une présence d'élèves parce qu'il y a trop de cas positifs sur un établissement scolaire, si M. le recteur nous demande de tel établissement de fonctionner en visio, on le fera, les professeurs l'ont fait, les élèves ont suivi, mais on sait très bien que le fonctionnement à distance peut provoquer du décrochage scolaire parce que la fracture numérique, elle existe dans les familles et que certains peuvent s'y retrouver mieux d'être tout seuls à la maison de travailler et d'autres perdent pied parce qu'ils n'ont plus ce contact social qui leur donne la pêche pour pouvoir suivre les cours.
Cette interview a été enregistrée juste avant l'annonce de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation autorise les lycées à dédoubler les classes et donc à réaliser certains cours à distance à une condition, 50% des cours ou plus doivent rester en présentiel.
What's it matter, out of my cocoon? Step into the sunshine, man, it feels good. Birds and bees jamming, a theme for the neighborhood. Are we alright again? Are we around the bend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Think you could. Birds and bees jamming, they're tuned for the neighborhood. They sing. Do you wanna fly? Do you wanna get high?
Yeah, I do.
High up here where we are.
Let me up there.
Well, don't you know it's not that far. Are we alright again? Are we all on the mend? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright again?
it over to that mangy cat. Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you wanna be. Are we alright?
Sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. C'est désormais l'heure de notre chronique associative avec Anthony. Bonjour Anthony.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui, tu nous proposes donc de faire un petit tour au niveau des associations face au confinement.
Exactement. Et donc bonjour Marie, bonjour Claire. En effet, en complément alors des informations toujours aussi pertinentes que vous diffusez avec brio dans cette émission, ouais, ça fait toujours du bien hein, de s'envoyer des petits faux doudous. Alors je vous propose de faire un point sur quelques dispositifs de soutien vers les associations. Alors je vais commencer par quelques chiffres. 7000. Alors 7000, c'est le nombre d'associations recensées par les services de la préfecture en 2020 qui sont dites actives, c'est-à-dire qui ont effectué une déclaration de moins de 5 ans. 880, attention, 880, donc c'est le nombre d'associations employeuses sur le territoire mayennais, selon les données ACOS, URSAF et MSA, Recherche et Solidarité, qui concernent donc l'année 2018, avec, on peut le préciser, dans ces 880, 37 associations pardon, de plus de 50 salariés. Et puis le dernier chiffre, 9000. Eh bien, 9000, c'est le nombre de salariés pour ces 880 associations, toujours selon le même recensement, ce qui représente environ 8000 ETP.
Et en effet, donc, tous ces chiffres nous montrent bien l'importance de ce secteur dans le paysage mayennais. Quelles sont donc les principales mesures mises en place d'ailleurs pour ces associations ?
Alors du coup, pour les associations, particulièrement pour les associations employeuses, donc sur le thème du télétravail et du chômage partiel, donc, on le rappelle, le télétravail est redevenu une obligation. Donc un salarié qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire, et ce, mais bien 5 jours sur 5. Et donc à titre exceptionnel, et pour ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance, en lien éventuellement avec l'utilisation de matériel spécifique ou des missions qui ne peuvent pas se faire en distanciel, aide à la personne, formation, accueil, émission de radio, eh bien, ces derniers peuvent tout de même se rendre pour une partie de leur temps sur le lieu de travail. Alors, pour cela, évidemment, on n'oubliera pas de fournir un justificatif de déplacement professionnel et surtout de veiller à respecter scrupuleusement le protocole sanitaire que l'on connaît désormais tous, gestes barrières, distanciation, désinfection, aération, nanana. Bref, prendre soin et mettre en sécurité les salariés et le public accueilli. Précisons toutefois que tous les professionnels de santé, ceux des services à la personne et notamment de l'aide à domicile ou de la garde d'enfants peuvent poursuivre leur activité.
Et pour le sport et la culture alors ?
Eh bien, secteur durement touché par ce confinement, souvent sous le coup d'une fermeture administrative, le travail préparatoire au spectacle, les répétitions, entraînements, enregistrements et tournages peuvent continuer. Mais attention, seuls les professionnels sont concernés. Donc, les entraînements des équipes sportives amateurs ne sont pas autorisés, tout comme les répétitions des troupes artistiques, troupes de théâtre, chant, chorale, etc. Donc, tout cela est interdit. Donc, face à ces règles, peut-être serez-vous amené à mettre en place le dispositif d'activité partielle ou autrement appelé chômage partiel. Celui-ci est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. On peut souligner que pour tous les secteurs protégés ou les secteurs qui font l'objet d'une fermeture administrative, comme les cafés, bars, restaurants, salles de sport, etc., le dispositif est pris en charge à 100%. Alors, pour plus d'informations sur ce dispositif, hein, qui a de multiples impacts et spécificités, renseignez-vous directement auprès de l'inspection du travail. On peut préciser que pour les pays de la Loire, donc le direct pays de la Loire, c'est au 02 53 46 79 69.
Et puis un autre dispositif, l'exonération et le report des cotisations sociales.
Alors, pour ceux concernés, vous l'avez peut-être remarqué, mais en tout cas, l'URSSAF a mis en place le report des cotisations sociales. Mais attention, il s'agit bien d'un report. Voilà. Petite nouveauté tout de même pour ce confinement, pour certains secteurs, celle-ci pourront faire l'objet d'exonérations pour les structures de moins de 50 salariés fermées administrativement et pour toutes les structures du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport qui restent ouvertes mais qui auraient perdu 50% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, donc tous ces renseignements, vous pouvez aussi les trouver sur mesures-covid19.ursaf.fr. Alors, il y a également le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, on en a entendu parler, en tout cas, celui-ci est réactivé. Et bonne nouvelle pour les associations, celles-ci sont aussi concernées. En effet, ce dispositif s'attache à la notion d'entreprise et d'activité économique, mais plutôt au sens européen du terme, c'est-à-dire qu'il englobe aussi les sociétés commerciales et les associations employeuses et ou fiscalisées. Alors, des questions restent encore un peu en suspens concernant l'application et l'éligibilité pour ce dispositif, mais un des critères est la perte d'au moins 50% du chiffre d'affaires sur les mois concernés par le confinement. Et donc, pour les associations, si on souhaite le calculer, il faut préciser que ce chiffre d'affaires est calculé sur l'ensemble des ressources, sauf les subventions publiques et les différents mécénats.
Et alors, pour les autres ?
Eh bien, tentons de trouver tout de même un peu de positif hein, dans ce confinement et de profiter de ce temps pour prendre le temps de faire ce qu'on a mis depuis trop longtemps de côté. On peut refaire le point, par exemple, sur la structure même de l'association, sur les statuts, le document unique, les assurances, l'archivage, enfin bref, l'ensemble des démarches et formalités auxquelles on ne prend pas le temps forcément quand on est en pleine action. Et pourquoi pas d'ailleurs se préparer au futur appels à projet en remettant à plat le projet associatif, en essayant de retrouver l'ensemble des documents. Et puis surtout, garder contact avec les bénévoles, s'assurer que tout le monde va bien et éventuellement leur proposer de se diriger vers le site covid-19-reserve.civique.gouv.fr qui propose de mettre en lien des volontaires et des associations qui leur permettent de s'engager sur des missions d'intérêt général, que ce soit pour de l'aide alimentaire et d'urgence, de la garde exceptionnelle d'enfants, du lien avec des personnes fragiles isolées, etc. etc. Mais bon, et je reviendrai lors d'une prochaine chronique, lors d'un prochain passage, si vous me l'autorisez, Marie-Éclair,
Évidemment,
à revenir sur les différentes possibilités qui s'offrent aux bénévoles associatifs pour continuer à aider, à soutenir, à se former, à se mobiliser, etc. etc. Bref, pour retrouver ces informations et plus de précisions sur ces dispositifs, n'hésitez pas à contacter les centres de ressources et d'informations de bénévoles en Mayenne, c'est-à-dire les CRIB, que sont le Centre d'études Action Action Sociale, le CEAS, au 02 43 66 94 34, ou le GDOS, Centre départemental olympique et sportif, au 02 43 67 10 30. Voilà, prenez soin de vous, on lâche rien et belle journée à vous.
Eh ben, belle journée à toi aussi Anthony, merci beaucoup pour toutes ces informations. On rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site l'autreradio.fr et puis évidemment on sait que tu reviendras pour une autre chronique effectivement par rapport là aussi aux associations. Désormais c'est l'heure d'une autre rubrique, celle des belles initiatives de ce jour. Maintenant vous en avez l'habitude, en fin d'émission on vous liste les bonnes idées du territoire. Et puis Claire, là on va commencer en partant du côté d'Hernay où les commerçants s'entraident.
Sur la place Renaud-Molière, Rolande Seguin tient un magasin de primeurs et se dit très affectée par la fermeture de ses voisins. Elle a donc mis en place un service de retrait de commandes de colis pour les commerces fermés et a mobilisé les autres commerces de la place restés ouverts, comme la boulangerie ou le magasin d'optique, à faire de même.
Les pompiers de la Mayenne, eux, viennent d'être équipés en masques produits localement.
Début novembre, l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Mayenne a reçu 2200 masques réutilisables. Ils sont fabriqués à Château-Gontier par l'atelier Nadège Couture. Cette commande a permis de faire fonctionner cette petite entreprise de 2 salariés en confectionnant jusqu'à 150 masques par jour.
Un kit d'entraînement pour les jeunes footballeurs va être distribué.
Depuis hier, le club de football L'Ancienne à Château-Gontier propose à ses licenciés un kit pour s'entraîner à la maison. Il est composé d'un ballon et de 10 coupelles. Il s'adresse aussi bien aux U7 qu'aux U18. Une trentaine de licenciés en ont déjà fait la demande.
À Voutré, le traiteur et le boulanger préparent le repas Drive pour les aînés.
Cette année, il n'y aura pas le traditionnel repas offert aux personnes âgées par la municipalité. Dès demain, ils sont invités à se rendre à la salle des fêtes pour un repas emporté. Le maire Dominique Richard pense, je cite, que c'est une très bonne collaboration. Elle maintient l'activité commerciale de la commune et fait bénéficier aux commerçants de travail supplémentaire. 130 repas ont déjà été réservés.
Et on termine avec l'espace Mélinois qui reste en contact avec les habitants.
Au Mêlée du Maine, la papote du web a été mise en place. Ce sont des temps d'échange par visioconférence. On y retrouve un temps pour discuter, jouer, créer sous différents thèmes. On peut aussi soumettre ses idées. Plus de renseignements au 02 43 64 39 98 ou par mail e.mélinois avec un s @ville-mêlée-du-maine.fr.
C'est bien noté. Merci beaucoup Claire pour toutes ces bonnes initiatives et ces informations de manière générale. Merci Anthony aussi d'avoir participé à cette émission. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui, donc du mardi 10 novembre, l'AJT du local. Alors exceptionnellement, pas d'émission demain puisque c'est férié, mais on vous retrouve dès jeudi. Avant ça, sur l'autre radio évidemment, ça continue à 19h. Retrouvez l'Instant Jeune qui invite Colline de l'ANPA, la NPAA, pour nous parler de prévention tabac et alcool. À 20h, ce sera The Voice of Cassandre et à 21h, Frères de Chaussures. Donc prochaine quotidienne, vous l'avez compris, jeudi. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.